Après l'incendie de lundi soir, l'heure est à la mobilisation pour la reconstruction de Notre-Dame. 10 à 20 ans de travaux, c'est ce que prévoyaient les premières estimations hier. Comment relever le défi au regard des techniques qui existent aujourd'hui? Que sera-t-il possible de faire, refaire ou même modifier pour ce monument emblématique? Et est-il forcément souhaitable de reconstruire à l'identique ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique? Bonjour Philippe Plagneux.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, sur le plan architectural, qu'est-ce qui caractérise selon vous la cathédrale Notre-Dame?
Ce qui la caractérise, c'est peut-être le monument le plus ambitieux de son époque. On est au moment où on est en train de naître ce qu'on appelle l'architecture gothique. C'est un des monuments qui participe à l'invention de ce nouveau style. Donc voilà, c'est un monument phare extrêmement important dans l'histoire de l'architecture.
Alors, un monument phare, alors on l'a dit, ça n'est pas la plus grande, ça n'est pas la première, mais ses caractéristiques et son évolution, parce que, bien entendu, Notre-Dame, telle qu'on la connaît, a connu différentes modifications au cours de son histoire, Philippe Plagneux.
Oui, c'est presque un chantier permanent. La première phase va vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. La première pierre est posée en 1163, début 13e siècle, le monument est pratiquement terminé. Et puis, dès qu'il est terminé, on entreprend d'autres travaux. Notamment, on change toute la luminosité du monument. On agrandit les fenêtres. Et cela entraîne la modification et la reconstruction, la réfection de la charpente. Et c'est en grande partie cette charpente du début du XIIIe siècle, d'une seconde phase, qui a été la proie des flammes.
Et dans les autres travaux qui ont été faits postérieurement, alors les plus célèbres sont les travaux de restauration, mais aussi de modification de Viollet-le-Duc.
Alors Viollet-le-Duc, bien sûr, c'est un moment dans l'histoire de la cathédrale, donc dans les années 1850, au milieu du 19e siècle, et qui termine effectivement sa restauration par la construction de cette flèche, qui était considérée déjà à son époque comme un chef-d'œuvre, avec un des plus grands charpentiers du moment, Bellu. Et c'est lui qui va donner presque cette image un peu iconique, mondialement connue de la cathédrale, avec sa grande flèche.
Alors, on sait aujourd'hui quels ont été les dégâts, et il y a donc des évidences, la charpente de l'édifice a été entièrement ravagée. En revanche, une partie de la voûte, les deux tours et les trois rosaces ont résisté. La charpente est, malgré tout, l'une des pièces maîtresses. Qu'est-ce qui devrait prévaloir dans le plan de reconstruction de cet édifice?
D'abord, c'est faire le bilan, parce qu'en réalité, on ne sait pas quels sont les véritables dégâts occasionnés non seulement par le feu, mais par l'eau. C'est-à-dire que c'est un monument qui a subi des quantités des tonnes d'eau qui se sont déversées sur lui. Et en ce moment même, forcément, le monument continue à se dégrader. Donc déjà, avant de savoir ce qu'on va faire, il faut enlever les déblais et faire un diagnostic de l'état. Deux voûtes se sont effondrées, au moins, et puis de cette progression des dégâts, des pierres qui sont gorgées d'eau, des mortiers qui sont sans doute très 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 abîmés, et donc c'est ce bilan qu'il faut dresser d'abord.
Mais est-il possible, est-il envisageable ou souhaitable d'ailleurs de reconstruire à l'identique, par exemple la charpente? On ne va pas pouvoir la faire à l'identique.
Alors à l'identique, tout est possible, ça c'est possible, mais ce qu'on a perdu, c'est la matérialité, la substance, c'est-à-dire ces arbres qui ont été taillés et débités au XIIIe siècle, dont certains avec aussi quelques éléments du XIIe siècle, de la charpente originale qui avait été remployée, tout ça c'est totalement perdu. Maintenant, refaire une charpente, c'est possible, redonner la silhouette, c'est possible, mais qu'est-ce que l'on veut? Le débat, il est là. Est-ce qu'on change de matériaux? Est-ce qu'on veut une œuvre contemporaine? Est-ce qu'on veut quelque chose d'identique? Est-ce qu'on va, on se donne le droit d'abattre des milliers de chênes, justement, maintenant, pour refaire cette charpente?
Il en existe de cette taille, aujourd'hui, on peut en trouver en France?
Je pense, en France, je ne sais pas si on peut trouver, probablement, des spécialistes des forêts pourraient vous dire ça, mais c'est sans doute beaucoup plus rare que c'était le cas au Moyen-Âge. Déjà au XIIIe siècle, on manquait déjà de grands bois de charpente.
Et alors, ils venaient d'où ces chênes à l'époque?
Je pense des grandes forêts d'Île-de-France, les grandes forêts d'Île-de-France.
Alors, on sait aujourd'hui que ces forêts-là n'ont plus la possibilité de délivrer des arbres de cette taille. Sur le plan esthétique, vous qui êtes historien de l'art, Philippe Plagneux, est-ce qu'il y a des modifications qui seraient en quelque sorte acceptables?
Ça, c'est en tant qu'historien de l'art, moi je suis l'historien du monument. Maintenant, les modifications, c'est un débat national, patrimonial, ça. pense que ça appartient à tout le monde. La décision, elle appartient aux techniciens, elle appartient aux architectes, elle appartient aussi aux amateurs d'art. Techniquement, alors, savoir est-ce que le monument peut supporter une nouvelle charpente, telle ou telle chose, ça on peut apporter un certain nombre de réponses, l'historien de l'art.
Bah, ça c'est de la technique,
voilà,
effectivement.
C'est de la technique, l'historien de l'art peut dire, voilà, ben, si vous faites telle chose, ça défigure le monument, mais voilà, chaque époque modifie la silhouette.
Et on sait qu'à l'époque, donc, des créations ou des recréations, je ne sais pas quel terme employer, de Viollet-le-Duc, et alors là, Paris, d'autres villes d'ailleurs, ont connu des modifications profondes de monuments. Notre-Dame, donc, a gagné cette flèche. En tout cas, elle a été agrandie. Il y a même eu des monuments de l'époque gothique qui ont été complètement créés. Je pense à l'hôtel de Sens à Paris, qui est pratiquement en face de Notre-Dame et qui est...
C'est un monument des années 1950.
Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de créations dans ce domaine-là. Est-ce qu'il est possible de reprendre les débats qui étaient là à l'époque de Viollet-le-Duc?
Ils sont en train d'apparaître en ce moment même, bien sûr. C'est un problème. Qu'est-ce que l'on veut? Tout est possible. Maintenant, voilà, est-ce que certains veulent une œuvre contemporaine? Est-ce qu'on doit garder des stigmates? Est-ce qu'il faut rétablir cette silhouette, mais avec à l'intérieur une charpente dans des matériaux différents? On est en droit de s'interroger. Et je pense que c'est même trop tôt pour donner une réponse. D'autant, je dis, on n'a même pas dressé le bilan des dégâts.
Notre-Dame n'est pas le seul édifice religieux en France qui a été endommagé. On peut parler de la cathédrale de Chartres, la basilique de Saint-Denis, la cathédrale d'Orléans, celle de Reims. Est-ce qu'il y a malgré tout des leçons à tirer de ce qui a été fait dans ces différents édifices endommagés, Philippe Planieux?
Chaque monument est un cas particulier, chaque époque aussi apporte sa propre vision des choses. Le choix est toujours politique. Chaque époque a su trouver une solution qui est à chaque fois différente. Vous prenez Orléans, eh bien, où on peut parler aussi de la cathédrale de Montpellier, détruite pendant la guerre de religion. Donc on décide, comme un acte fort politique, de refaire à l'identique. Refaire à l'identique, ça veut dire revenir en arrière, comme si la catastrophe, le fait n'avait pas eu lieu. C'est ça. À Chartres, au 19e siècle, ou à Saint-Denis, à peu près au même moment, on fait choix, justement, de refaire une toiture métallique, une charpente métallique, en employant les matériaux les plus modernes du moment. C'est ce qui a été fait aussi à Reims, après la guerre de 14-18, où l'architecte Deneux, d'ailleurs spécialiste des charpentes, un des premiers à s'intéresser à l'histoire, à la technique des charpentes, eh bien propose un modèle de charpente en béton, qui porte une pathologie d'ailleurs maintenant assez grave.
Quelle pathologie?
Le béton, on pensait que le béton était un matériau miracle, et ça, il faut faire attention. Chaque époque pense que ces matériaux qu'elle invente, eh bien, c'est la solution qui va être la plus pérenne. Et on s'aperçoit qu'un béton, il suffit d'avoir un peu d'humidité qui va suivre les fers. Il y a des pathologies très graves dans le béton, donc il faut aussi faire très attention à ces matériaux modernes dont on ne sait pas comment ils vont vieillir.
Donc ça, c'est une fausse bonne solution, les charpentes en béton. Merci beaucoup, Philippe Planieux. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est 7h21 sur France Culture.